Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Simone Berthière, historienne, écrivain, aime et connaît bien le XVIIe siècle, le grand siècle, et ses personnages aux destinées exceptionnelles, voire légendaires. Après Mazarin, le maître du jeu, paru en 2007 chez Fallois, voici en effet un personnage de légende, Condé, le héros fourvoyé, toujours aux éditions Fallois. Simone Berthière, bonjour.
Bonjour.
Merci de votre visite à notre studio.
C'est moi qui vous remercie de votre invitation.
Les précédentes biographies de Condé n'ont pas manqué. Elles étaient animées, j'ai lu ça dans votre introduction, par les préventions envers la régente et Mazarin, qui étaient encore de règle au moment de leur publication, il n'y a pas si longtemps. Est-ce votre ouvrage sur Mazarin qui vous a donné envie d'écrire une nouvelle biographie sur Condé ?
Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai eu envie quand même de creuser la question sur le heurt entre Condé et Mazarin. Et pourquoi finalement Condé a-t-il été amené à combattre très violemment la régente et Mazarin? Et pourquoi a-t-il été battu au bout du compte? Et ce qui m'intéresse, au fond, ce n'est pas la fronde. Je n'écris pas un nouveau livre sur la fronde et je ne prétends pas en éclairer les coins et les recoins. La fronde, c'est un événement finalement insignifiant à l'échelle de l'histoire de France. Mais ce qui m'intéresse, en revanche, ce sont les mœurs et les mentalités. J'ai voulu voir comment un autre personnage que Mazarin et le cardinal de Retz ont vécu la même période et les mêmes événements.
Vous dites qu'il vous faut faire des ajustements pour comprendre l'époque, ajustements parce que c'était des siècles passés, la féodalité se terminait, la monarchie française se modernisait. Et vous aviez compris le cardinal de Retz et Mazarin. Est-ce que c'était si difficile que ça de comprendre et de s'ajuster autour du personnage de Condé ?
C'est une gymnastique intellectuelle très stimulante. Moi, j'ai beaucoup aimé l'exercice. Alors, on arrive quand même à saisir la mentalité des personnages parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Sinon, venant de lui, il n'a pas fait de confidence. Il y a une correspondance abondante, mais ce sont des lettres fonctionnelles sur des affaires très concrètes. Mais en revanche, on a énormément parlé de lui. Tout le monde a parlé de lui, tous les contemporains, et il porte sur lui des jugements différents. Mais à travers justement cette multiplicité de témoignages, on peut se faire une idée de ce qu'était la mentalité du personnage, et qui est extrêmement loin des mentalités actuelles.
Vous avez intitulé votre livre « Condé, le héros fourvoyé », dites-vous. Votre ouvrage tourne autour de l'interrogation majeure, la rébellion de Condé, c'est là qu'il s'est fourvoyé, parce que, en fait, on peut dire qu'il a quand même trahi.
Mais oui, bien entendu. Alors, il faut dire quand même pour nos auditeurs que Condé, après avoir été un héros au service de la France et au service de la régente pendant les premières années de la minorité de Louis XIV, a fini par se retourner contre la régente et Mazarin et il est passé au service de l'Espagne et il a combattu pendant 6 ans à la tête d'armées espagnoles contre les armées françaises. Alors, ça fait quand même des ordres dans sa biographie. Donc, il vaut la peine de poser la question. En général, tous les biographes gomment, n'est-ce pas ? L'habitude qui date d'ailleurs de Bossuet et de l'oraison funèbre de Condé.
Oui, vous commencez par là, votre livre.
Je commence par là parce que là, on passe la période espagnole de Condé au profit des pertes, n'est-ce pas ? Or, c'est un malheureux accident. C'est vraiment de la malchance, il n'y pouvait rien. Et il n'entend rien responsable, n'est-ce pas ? Et finalement, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut oublier. Il y a une belle formule en latin, mais que je vous traduis. Ce qui s'est passé loin du soleil doit rester dans l'ombre. Voilà. La trahison, on n'en parle plus.
Alors que finalement, vous, vous dites que c'est plutôt l'aboutissement prévisible d'un itinéraire. Je vais déjà rappeler les dates de Condé. Il est né en 1621 et mort en 1686. Il avait donc 17 ans de plus que Louis XIV, ce qui fait une génération et ce qui a compté certainement
beaucoup
dans sa vie.
Oui, alors Condé, d'abord c'est un très grand seigneur, il est le premier prince du sang, enfin après son père, qui meurt assez vite. Il est un cousin du roi et il a été élevé dans l'idée que le trône pourrait bien lui échoir si par hasard la branche aînée des Bourbons venait à manquer d'héritier. Et il y a une période où quand même l'espoir n'était pas absolument chimérique. Donc, il rêve évidemment du pouvoir, non pas pour gouverner, mais simplement pour ne pas rencontrer d'obstacles à ses volontés. Condé est quelqu'un qui ne supporte pas de se heurter à un interdit quelconque. Voilà.
Tout est permis.
Tout est permis, à qui rien n'est impossible, tout est permis. Voilà.
Il va voir que non.
Il va s'apercevoir à ses dépens tout de même qu'il y a des limites à ne pas franchir. Alors, je l'appelle le héros fourvoyé parce que, effectivement, à un certain moment de sa carrière, quand il a vraiment perdu la partie en France, la plupart de ses amis se soumettent, en particulier Gaston d'Orléans, l'oncle du roi, et lui choisit de ne pas s'incliner, de ne pas céder et de poursuivre le combat. Et c'est à ce moment-là qu'il passe à l'Espagne. Donc, il est à un embranchement, il y a deux voies, et à mon avis, il prend la mauvaise. C'est pour ça que je l'appelle le prince fourvoyé.
Sa personnalité explique ce mauvais choix.
Oui, bien sûr. C'est quelqu'un, alors, je vous dis, qui ne supporte pas les obstacles, mais qui veut aller au bout de toute chose. C'est un passionné de l'impossible, de l'exploit le plus hardi qu'on puisse imaginer. Alors, il rêve du pouvoir, non pas du tout pour exercer le pouvoir lui-même, mais pour avoir les moyens de faire absolument ce qu'il veut dans tous les domaines. Mais ce qui le rend sympathique, enfin, il n'est pas trop antipathique quand même, et je vais vous dire pourquoi, c'est parce qu'il se mène lui-même en jeu, il ne se ménage pas. Et il demande énormément aux autres, il exige tout des autres, mais il exige aussi tout de lui-même. C'est-à-dire qu'il cherche toujours à aller au bout de ses propres possibilités, au-delà des limites de ses forces. Vous voyez, c'est quelqu'un, enfin, je n'ai pas osé le faire dans le livre, mais j'ai envie de le comparer à l'alpiniste qui grimpe à l'Everest pour la première fois et qui reste accroché à une paroi et qui ne veut en aucun cas redescendre. C'est ce type d'homme. Alors ça le grandit, si vous voulez, à mes yeux, et ça excuse tout le côté déplaisant que peut avoir son arrogance face aux autres.
Oui, c'est-à-dire que c'est un homme de l'extrême, dans le meilleur comme dans le pire.
Comme dans le pire, exactement.
On va parler de Rocroi, parce que Rocroi, c'est le moment où on a cru qu'on avait un nouvel Alexandre. Bon d'accord, il n'a jamais été roi, ça c'est bien regrettable pour Condé. Mais Rocroi, c'est le 19 mai 1643, Louis XIII est mort le 14 mai 1643. Ce n'était pas gagné contre les Espagnols, on a frôlé le désastre, mais justement, Condé a tout changé.
Oui, alors là, c'est tout à fait extraordinaire parce que, bon, il avait 22 ans, son père l'avait élevé de façon très, très sévère, mais il avait évité de pousser trop vite vers la carrière des armes parce que lui-même, n'étant pas très doué sur ce terrain, avait peur que son fils s'y perde. Il avait mesuré la violence du tempérament de son fils. Alors, Condé avait fait un vague apprentissage au siège d'Arras, il avait, en tant qu'observateur, si vous voulez, mais il n'avait jamais combattu et encore moins commandé d'armée. Alors, à Rocroi, son rang dans la hiérarchie nobiliaire fait qu'on lui confie les deux armées de Picardie. Mais c'est, si vous voulez, un poste tout à fait honorifique et en réalité, il est flanqué de maréchaux chevronnés à qui il est censé obéir. Enfin, il est là simplement pour cautionner la campagne. Or, quand on apprend que Louis XIII est mort, la réaction des maréchaux, c'est on va vite glisser quelques renforts dans la place de Rocroi et puis on va faire demi-tour sans risquer une bataille parce que si on la perd, au début du règne d'un enfant de 4 ans et demi, ce serait catastrophique. Et tout d'un coup, Condé dit non, non, la bataille, on la donne. Et il leur donne de donner la bataille, il met sur pied un plan que les maréchaux ne suivent pas. Les maréchaux font des sottises et l'aile gauche où il commande est enfoncée. Alors la situation est quasi désespérée et c'est à ce moment-là que Condé imagine une manœuvre de contournement.
Il prend tenaille.
Oui, il envoie sa aile droite de la cavalerie contourner l'infanterie espagnole par derrière et prendre en tenaille la cavalerie espagnole. Il l'écrase et alors à ce moment-là ne reste plus sur le terrain que le carré d'infanterie espagnole, les fameux tertiaux.
Qui sont réputés invincibles.
Invincibles sont ceux qui tiennent des piques toutes droites. On les voit sur le tableau de Velázquez, la reddition de Breda. Là. Un carré est très serré. Et Condé lance l'assaut à plusieurs reprises. Et il charge lui-même à la tête de ses troupes en prenant des risques inouïs. Et c'est ça aussi qui le rend sympathique, si vous voulez. Les autres généraux commandent, mais ils sont avec leurs troupes, pas le premier devant elles.
Oui, tandis que lui fait des attaques frontales. Et je dis des attaques parce qu'à trois fois de suite, il retourne.
Voilà, il retourne, il refuse d'abandonner et il gagne. Il bat les fameux tertiaux espagnols et du coup, alors, la réputation des armées espagnoles s'effondre, elles ne sont pas invincibles. Et Condé, du jour au lendemain, il a 22 ans, est promu l'égal de César et d'Alexandre, enfin un des plus grands capitaines de guerre que l'Europe ait connu.
Quel renseignement peut-on tirer de Rocroi, justement, de cette bataille incroyable, un peu sur l'art de la guerre et un petit peu aussi sur le nouveau pouvoir qui s'installe?
Bien, d'abord, sur l'art de la guerre, ce qu'il y a de très remarquable chez Condé, qui par exemple distingue un peu de Turenne, c'est que Condé a une capacité d'improvisation extraordinaire sur le terrain. Et non pas qu'il ne prépare pas les combats, au contraire, il examine très soigneusement à l'avance les conditions de la bataille. Mais il ne s'enferme pas dans le plan qu'il a décidé. Et si les circonstances appellent des changements, eh bien, il invente immédiatement des solutions. Donc, son grand génie, c'est de rattraper justement les batailles à demi perdues. À tel point que quelquefois, on le soupçonne de laisser filer le début pour pouvoir se montrer plus brillant.
Il serait gros joueur,
dans là. Dans le redressement. C'est pas impossible avec lui.
Et c'est pour ça qu'il a été si souvent lu par Napoléon ?
Oui, bien sûr.
Turenne a été lu, mais lui aussi.
Turenne aussi. Mais Napoléon a étudié systématiquement toutes les batailles. Mais alors, on ne va pas les raconter toutes ici, mais toutes les batailles de Condé, il y en a toute une série, elles sont toutes différentes. Il n'y en a pas deux pareilles, parce que les circonstances ne sont pas les mêmes. Et que chaque fois, à une situation donnée, eh bien, il apporte une solution nouvelle. Et c'est tout à fait remarquable. Alors, il ne faut pas lui ôter cette gloire-là, même s'il a commis quelques bêtises du point de vue politique, au moins, sa notoriété comme capitaine est plus que largement méritée.
Oui, d'ailleurs, vous n'hésitez pas à dire que ce fut un des plus grands capitaines que le monde ait connu.
Mais c'est exact.
En amour, c'était plus compliqué, parce qu'il a été victime, et sa femme aussi a été une victime, peut-être encore plus que lui, du mariage arrangé. Puis il a eu un grand chagrin d'amour, il ne vivait rien tranquillement, lui.
Condé, non, il est extrême en tout. Il est habité par des passions, ému par des passions. Il réfléchit ensuite, mais l'essentiel vient finalement de ces mouvements qui le jettent en avant sous l'effet d'une émotion très forte. D'ailleurs, il les somatise souvent. Quand il a des contrariétés, ça se répercute sur son corps. Et il lui arrive d'être malade avec des fièvres de 41 degrés, on ne les mesurait encore pas, mais c'est l'équivalent, au point de délirer parfois, parce qu'il a trop pris sur lui-même, soit psychologiquement, soit même physiquement dans les combats. Donc évidemment, l'histoire conjugale, c'est désolant, mais son père l'a obligé à épouser une nièce de Richelieu. Il a accepté parce qu'il est très jeune, il n'a pas osé protester, il ne mesurait pas en fait les enjeux. Et il s'est aperçu que c'était une charmante jeune femme, enfin fillette d'ailleurs à l'époque, puis jeune femme assez insignifiante. Et il est tombé amoureux d'une amie de sa sœur et ce fut un grand amour brisé. Alors il n'a jamais pardonné à sa femme de lui avoir gâché, si vous voulez, sa vie. Je ne sais pas s'il aurait rendu heureuse Marthe Duvigent, on peut en douter vu le caractère du personnage.
Je pense qu'il aimait surtout...
Il n'était pas facile à vivre.
Oui, et puis il aimait surtout l'impossible, ce qui ne se faisait pas.
Oui.
Il avait peut-être un côté romantique aussi.
Je n'aime pas beaucoup le mot romantique parce qu'il est trop marqué du point de vue...
Pourquoi pas sentiment-là.
Mais il a été très sincèrement amoureux de Marthe Duvigent, tout en étant sur le plan des mœurs extrêmement libertin, courant à la fois les prostituées mais aussi les jeunes gens. Hein. Il y a un peu de tout. Enfin, Alors, le personnage de Condé, une fois couvert de gloire, il est l'idole de la jeune génération. Il se croit tout permis, il est odieux parce qu'il méprise tout le monde et il viole systématiquement tous les interdits, un peu comme un jeune homme qui jette sa gourme pour avoir été trop tenu pendant son adolescence. Et donc, les tabous sont faits pour être violés. Il multiplie donc toutes les incartades possibles.
Parlons de la trahison.
Oui, alors la trahison, eh bien, le problème c'est que dans cette société qui est encore très imprégnée d'esprit féodal, il y a un dogme fondamental, c'est que tout service mérite salaire. Donc, quelqu'un qui remporte une bataille s'en va trouver la régente pour demander sa récompense. Alors, Condé remporte toutes les batailles pendant 6 ans, entre 1643 et 1648, eh bien, il demande tout. C'est-à-dire qu'il demande en particulier pour lui l'amirauté, c'est-à-dire toute l'autorité sur la marine, et puis pour ses amis, tous les postes de responsabilité importantes dans l'armée, dans le commandement des places fortes et des provinces, etc.
C'est impossible pour un roi ou une reine d'accepter
ça. Aucun gouvernement, qu'il soit monarchique ou autre, ne peut accepter de donner un tel pouvoir à un particulier, surtout quand il est à la tête des armées, il est l'idole de ses troupes. Donc, effectivement, la reine le met en prison, sans motif juridique valable, mais tout simplement pour le calmer un petit peu. La réaction nobiliaire se fait sentir immédiatement. On le tire de prison, alors il sort furibond. et il se lance dans la guerre civile. Vraiment, alors, en affrontant déjà sur place les armées du roi, il perd la guerre civile. Et au lieu de se soumettre, il s'en va offrir son épée à l'ennemi, c'est-à-dire aux Espagnols qui sont à Bruxelles, dans les Pays-Bas espagnols à ce moment-là. Et c'est alors qu'il sert à l'Espagne pendant 6 ans contre la France et qu'il reprend recroît aux Français pour le compte des Espagnols. Ça fait mauvais effet quand même dans son palmarès, vous l'avouerez. Et alors là encore, mais les Espagnols et lui-même sont battus à la bataille des Dunes par Turenne. Et donc, il rentre l'oreille basse. Et Mazarin négocie son retour en France parce qu'on le juge moins dangereux chez nous que dehors. On lui rend ses biens, on lui rend les honneurs dus à son rang, mais on ne lui rend pas l'accès au pouvoir. Donc il est quand même marginalisé et il n'a que 39 ans et il a encore à vivre 26 ans.
Alors parlons justement de ce condé-là qui va être le seigneur de Chantilly pendant 26 ans.
Oui. Alors, il se réfugie à Chantilly, il remplit ses devoirs à l'égard de Louis XIV de façon parfaite, mais en service minimal, si vous voulez. Il fait ce qu'il doit, mais autrement, il fuit Versailles, il vit à Chantilly, et petit à petit, il organise à Chantilly une manière de cour, sauf que le mot de cour est presque excessif, c'est un entourage choisi, où il accueille des gens intelligents, cultivés et venant d'horizons très différents. Il y a des jésuites, il y a un protestant, il y a un ou deux mécréants, il y a différents personnages plus ou moins hérétiques, mais tous discutent de philosophie et de théologie, et tous mènent également une joyeuse vie, et sans aucune étiquette, sans aucune pression d'ordre social. Chacun fait ce qu'il veut au moment où il le veut. Et Condé lui-même aime les jardins, il aime les fleurs, il s'est occupé encore plus de son parc que de son château, et il fait régner dans ce petit monde un esprit de tolérance et de liberté tout à fait extraordinaire. Alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'il est devenu aimable. Il avait été détestable, arrogant et méprisant. Et il s'est rendu compte que son échec était dû essentiellement à sa violence. Et il n'avait plus personne à défier à ce moment-là. Ben, il a décidé de se défier lui-même. Il s'est mis au défi de devenir
un sage presque.
Un sage. De devenir aimable, ouvert, accueillant aux autres, généreux. Et il est parvenu à cette métamorphose extraordinaire. De sorte que finalement, il trouve une forme de bonheur à Chantilly et on est heureux autour de lui. Et Madame de Sévigné et La Fontaine le comparent à un dieu de l'Olympe qui règne dans la paix et l'harmonie. Voilà.
Donc en fait, c'est une aventure qui est un peu exemplaire parce qu'elle illustre aussi bien la grandeur que les dérives de l'héroïsme.
Bien sûr, l'aventure de Condé montre qu'un héros ne peut pas se permettre n'importe quoi, notamment quand il engage le reste de la société autour de lui et qu'il y cause des dégâts considérables. Du point de vue historique, son intervention a été catastrophique. Mais en revanche, bon, il donne cet exemple merveilleux de reconversion finale. Et je pense que c'est par là qu'il est le plus exemplaire.
Eh bien, merci beaucoup, Simone Berthière. Je vous engage tous à lire ce livre qui est aussi, bien sûr, documenté et qui s'anime sous votre plume alerte avec des anecdotes et de l'humour.
Merci.
Au revoir, madame.
Au revoir.